midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS pour votre santé, bonjour, bienvenue. Ravi de vous retrouver. Mon invité aujourd'hui est le professeur Olivier Bonneau. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris-Saclay, chef de service à l'hôpital Barthélémy-Durand dans l'Essonne et ancien chef de service au CHU de Nantes. Alors, je dis ça parce que quand vous êtes arrivé à Nantes il y a 12 ans, eh bien, vous avez développé dans votre service une unité spécialisée dans le TDAH, qui est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, et que vous êtes membre également du conseil scientifique de l'association Hyper Super TDAH.
Tout à fait.
Vous publiez aujourd'hui « Et si c'était un TDAH » aux éditions Marabout, mais pourquoi cet intérêt pour le TDAH ?
Alors, à titre personnel, cet intérêt pour le TDAH, ça doit être parce que moi-même, je suis un peu quelqu'un qui a une forme de l'adulte de TDAH, vous voyez ? Au fond,
mais ça n'existe pas, les formes de l'adulte de TDAH.
Ah, c'est ce qu'on a longtemps pensé. Alors ça, c'est une chose assez étrange. Pendant assez longtemps, la psychiatrie a été divisée en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent d'un côté et psychiatrie de l'adulte de l'autre. Et alors, on disait par exemple que l'autisme n'existait pas chez les adultes, alors qu'il y en avait chez les enfants, et que d'autres pathologies plus connues, troubles bipolaires, l'ancienne psychose maniaco-dépressive ou encore les schizophrénies, n'existaient pas chez les enfants. Alors pour le TDAH, il est arrivé la même chose. On a d'abord pensé que c'était que chez l'enfant, avant de se rendre compte que fort logiquement, à 18 ans, ben, tout ne s'arrêtait pas et qu'un certain nombre de gens continuaient à avoir ce trouble.
Alors, pendant des années, je me suis posé la question de savoir ce que devenaient les enfants TDAH. Personne ne pouvait me répondre. On me disait ça passe avec le temps ou peut-être qu'ils mettent en place des mécanismes de compensation.
Alors, un peu des deux, en effet. Parfois, ça passe avec le temps, c'est vrai. En général, on considère qu'il y a 5% des enfants et adolescents qui présentent un TDAH, qui est donc un trouble du neurodéveloppement, et que c'est environ 3% des adultes. Donc, il y a une petite perte de 2% pour lesquels ça s'améliore. Et c'est ce que montrent très bien les études scientifiques. D'ailleurs, il y a une proportion de patients pour lesquels ça s'améliore ou qui compensent, ou en tout cas pour lesquels les symptômes n'apparaissent plus, ne se voient plus. Et puis un certain nombre d'entre eux, par contre, pour lesquels ça reste, en se transformant un peu comme forme de l'adulte, avec quelques petites spécificités, moins d'agitation, plus dans la tête. Et puis certains pour lesquels ça s'aggrave quand même, avec des risques, et en particulier des risques addictifs, qui sont quand même assez ennuyeux.
Alors le TDAH, pour tout le monde, c'est ce qu'on appelait avant les hyperactifs. En gros.
C'est ça. Alors effectivement, on a changé de terminologie. Pendant longtemps, ce qu'on a vu, c'est d'abord l'hyperactivité motrice, c'est-à-dire le type qui bouge sans arrêt sur sa chaise, qui n'arrive pas à rester en place. Et ça, comme c'était le plus dérangeant, bah, c'est forcément ce qu'on a vu d'abord en premier. Donc on a appelé ça hyperactivité, c'était facile. Puis progressivement, on s'est aperçu que, évidemment, ils avaient des difficultés d'attention, mais que c'était probablement ces difficultés d'attention qui étaient en grande partie responsables ou liées à cette hyperactivité. Et que le vrai problème, le problème central, c'était la difficulté d'attention, le fait de ne pas arriver à se concentrer, et le fait d'être distractible, le moindre bruit vous fait sursauter et vous empêche de vous concentrer, et que c'était ça qui, au fond, avait un impact le plus important.
Donc, ce n'était pas l'hyperactivité, c'était le manque d'attention.
Tout à fait. D'ailleurs, du coup, maintenant, ça s'appelle trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est-à-dire qu'on peut avoir un TDAH, qui deviendrait à ce moment-là un TDA, en quelque sorte, sans hyperactivité.
Alors, je ne sais pas si c'est un signe des temps, mais j'ai l'impression que de plus en plus autour de moi, j'ai des parents qui me disent qu'ils ont soit des enfants HPI, soit des enfants hyperactifs. Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou vous disiez 3%. 3%, ça fait vraiment très peu de... C'est pas énorme. Hein,
3% des adultes, 5% des enfants.
Oui, mais c'est pas énorme. Enfin, vous voyez.
Non, c'est pas énorme. En même temps, c'est pas mal quand même quand on regarde bien. Ça en fait au moins un par classe. C'est quand même une quantité importante. Et puis, il y a un autre aspect. Alors, il y a plein de choses, en fait, dans le fait qu'on parle beaucoup plus du TDAH, mais en règle générale, on parle aussi beaucoup plus de psychiatrie, beaucoup plus de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Probablement, alors d'abord, dans une meilleure reconnaissance ou connaissance, et ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt un signe positif. Pendant longtemps, il y a eu quand même, et ça existe encore, hein, une stigmatisation importante. On essayait de ne pas voir ces problèmes quand on pense que ça touche quand même une personne sur cinq une fois dans sa vie. Donc, c'est pas rien. Et donc, ça, c'est la partie un peu positive. C'est la partie positive. Ensuite, il y a effectivement un certain nombre, une meilleure connaissance du TDAH en particulier et des troubles du neurodéveloppement dont le TDAH fait partie.
Mais ça, c'est récent.
Oui,
qu'on dise que ce soit un trouble du neurodéveloppement.
Alors, en effet, excellente question.
Oui, moi, j'essaie. Oui, c'est pas quelque chose que j'entends depuis longtemps.
Non, la catégorie trouble du neurodéveloppement, elle existe en fait dans les classifications depuis 2013. Donc dans la littérature scientifique, elle est apparue évidemment un peu avant. C'est l'idée qu'il y a une anomalie dans le développement qui se produit et qui va être responsable d'un certain nombre de troubles et donc de symptômes qu'on observe. Dans l'autisme, ça se comprend assez bien. Il y a des difficultés d'interaction avec l'autre, elles apparaissent et progressivement, évidemment, on a des signes qui sont bien plus évidents. Et puis après, on s'est dit, il y a peut-être d'autres troubles qui pourraient rentrer dans cette catégorie. De manière assez évidente, on a fait rentrer les troubles des apprentissages, la dyslexie, j'arrive pas bien à
tous
lire.
Tous les 10, ouais.
Voilà,
ouais.
Tous les 10 en partie. Ouais. Et puis après, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait du TDAH? Et comme on était, comme on vient de l'évoquer, parti sur l'idée que c'était un trouble de l'attention et que l'attention est une fonction développementale, tout le monde a bien observé, ça fait un peu compliqué quand on dit ça comme ça, mais tout le monde a bien observé quand vous mettez votre enfant en crèche, il se concentre quelques secondes, franchement, sur ce qu'il est en train de faire, puis il passe directement à autre chose. À la fin de la crèche, il va rester quelques minutes. Quand il va rentrer en classe, progressivement, ça va augmenter. Et puis là, peut-être, si l'émission dure une heure, j'arriverai à rester concentré une heure. Donc on a progressé. Et ça, c'est pas simplement parce que ça aurait poussé, comme si on avait arrosé l'attention comme une plante et que ça pousse. Mm-hmm. C'est parce que je l'ai travaillé, c'est parce que j'ai été en interaction. Et donc, ça s'est développé. Comme c'est une fonction développementale, on considère qu'un trouble de l'attention est un trouble du développement. C'est pour ça qu'on les rentre dans la catégorie des troubles du neurodéveloppement.
Parfois, quand on observe les parents de ces enfants qui sont TDAH et qui n'ont pas été diagnostiqués, on se dit, mais quand on voit leur état d'épuisement, on a envie de leur dire, allez consulter. Parce que ce sont souvent des parents épuisés.
Alors, les enfants qui présentent un TDAH sont quand même des enfants qui peuvent être épuisants. C'est d'ailleurs en fait tout leur drame. En règle générale, le retour qu'ils obtiennent des adultes, c'est le fait qu'ils sont épuisants, et ça, c'est vraiment le meilleur des cas. Le pire, c'est, en fait, on les trouve, on va le dire, chiants. Ils sont compliqués, ils répondent tout le temps, ils ont sans arrêt quelque chose à dire, ils restent pas en place, leur esprit ne reste pas en place, ils passent d'une idée à une autre, ils répondent trop vite à des questions, donc du coup ils écoutent pas entièrement la question et donc la réponse est à côté du sujet. Ils sont donc effectivement très fatigants. Donc pour les parents, c'est extrêmement dur, et c'est des parents qui donc viennent consulter et pour lesquels il est important de faire le diagnostic pour leur enfant, parce que au moins ça explique un peu ce que c'est. Et ce qu'on a essayé de mettre dans le livre, c'est au moins une grande partie d'explication.
Et c'est l'objet de votre livre, et notamment pour les parents, en les invitant à changer de lunettes, un petit peu, de changer la façon dont ils doivent regarder leurs enfants, et qu'ils doivent mettre en place des stratégies qui ne sont pas forcément celles qu'ils appliquent depuis le début.
Non, effectivement, ça nécessite parfois de changer ses stratégies éducatives pour s'adapter à son enfant et à ses particularités. C'est au fond ce qu'on fait un peu tout le temps, mais dans le cadre du TDAH, c'est sûrement un peu plus compliqué, mais ça nécessite d'être accompagné. C'est d'ailleurs, en fait, dans les prises en charge habituelles qu'on a quelque chose qui est toujours conseillé, c'est-à-dire les groupes avec les parents pour leur expliquer ce genre de choses. Il n'y a pas un accès pour tout le monde à ce genre de prise en charge. Bah, du coup, on s'est dit, tiens, et si on en écrivait un certain nombre pour donner des fiches, des aspects pratiques, quoi faire, comment le faire. Et voilà, c'est un peu l'idée.
Y a encore toujours des retards au diagnostic?
Malheureusement, oui, pour plusieurs raisons. La première raison pourrait être quand même que les diagnostics en général sont portés par des médecins, des psychiatres d'enfants et d'adolescents, des pédiatres, des médecins généralistes, je le souhaiterais aussi, mais on a un déficit médical dans le pays. Vous le savez, l'accès aux médecins est quand même un peu plus compliqué qu'il y a une quinzaine d'années. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que la reconnaissance du trouble, le TDAH, est pas si récente, en particulier en France. Il y a eu un certain nombre de réticences à envisager que ça puisse être un trouble du neurodéveloppement tel qu'on l'a défini tout à l'heure, et avec toujours un peu des idées, vous savez, oui, alors il doit y avoir un problème éducatif, il est mal élevé, et donc faisant porter la charge des symptômes et de l'expression clinique de leur enfant, essentiellement aux parents. Donc il y a toujours un peu cette dichotomie, ces deux façons de voir les choses qui persistent et qui parfois brouillent un peu et empêchent de faire le diagnostic trop précocement, ou parfois fait des erreurs diagnostiques, on va dans d'autres directions. Il y a aussi un aspect, comme d'autres, hein, je ne suis pas le seul, mais il y a quand même un aspect de déculpabilisation dans ma démarche, dans l'idée de dire, bah, écoutez, c'est pas de votre faute, vous pouvez vous adapter, vous avez les ressources, on va vous accompagner, on va vous expliquer, et bon, écoutez, les choses peuvent se passer convenablement avec au prix de quelques adaptations.
Alors, est-ce que c'est un trouble inné ?
Alors, comme tous les troubles du neurodéveloppement, il a une bonne part d'inné. Alors, inné, on n'utilise plus trop le terme comme ça, de cette façon, entre inné et acquis, ce vieux débat. C'est toujours un peu compliqué. Ce qui est clair, c'est qu'il y a manifestement un aspect héréditaire. C'est-à-dire que si vos parents ont un TDAH, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un TDAH vous-même. C'est d'ailleurs assez intéressant parce qu'au fond, quand on fait le diagnostic chez les enfants, on a des parents qui nous disent, mais moi je suis un petit peu comme ça, tiens, ben moi, au fond, ça me rappelle, ah ben maintenant que vous le dites, et comme la forme adulte, hein, j'essaie d'en parler un tout petit peu, mais la forme adulte est un peu différente, moins marquée par l'hyperactivité, et beaucoup plus par une sorte d'hyperactivité psychique, si on peut dire, les gens, en fait, ont pris l'habitude, se sont un peu adaptés, quand ça se passe bien, hein, et donc, bon, personne n'avait fait le diagnostic. Donc, clairement, il y a une part héréditaire qui le rend pour une grande partie inné. Et bien sûr, après, il est modelé, ben, comme chacun d'entre nous, hein, par son environnement. Évidemment, il va s'exprimer d'une manière ou d'une autre, d'une manière différente en fonction de l'environnement dans lequel on se situe.
En gros, aujourd'hui, à quel âge on détecte un TDAH ?
Objectivement, on va dire de manière générale, on doit faire le diagnostic autour de 6 ans. Avant, on va dire qu'on peut faire le diagnostic entre 4 et 6, mais il faut quand même être un peu spécialisé. On est en train de travailler avec la Haute Autorité de Santé sur les recommandations pour le TDAH qui vont sortir en fin d'année calendaire, probablement. Et la question, on se l'est posée. Et objectivement, c'est possible probablement de faire un diagnostic entre 4 et 6, mais c'est quand même toujours un peu délicat parce que ces comportements, le fait d'être inattentif, on a parlé tout à l'heure de l'aspect développemental de l'attention. Si évidemment on prend un enfant tout petit de crèche, on va trouver qu'il est très peu attentif, mais c'est normal à son âge. Donc il y a quand même un moment où il faut être un peu prudent. Et disons qu'à partir de 6 ans, on peut faire un diagnostic sans aucune difficulté.
On peut poser le diagnostic. À noter qu'il n'y a pas d'examen hein, aujourd'hui pour poser un diagnostic de TDAH.
Non, aucun. C'est toute la beauté du métier que je fais, que je suis très heureux de faire, je dois vous le dire, parce que je dis toujours un petit peu ça, parce que c'est un métier qui n'attire plus autant les jeunes qu'avant, donc j'essaye toujours un peu d'en parler. On a fait d'ailleurs toute une campagne promotionnelle de ça.
Je rappelle que vous êtes psychiatre.
Ouais. Tout à fait. Mon métier, c'est psychiatre, et puis c'est même psychiatre d'enfants et d'adolescents. Donc on essaie de mettre un peu en avant ce métier. Et c'est vrai que ça nous semble important de pouvoir montrer que c'est quelque chose qui peut aider les gens et arranger les choses.
Et alors vous êtes psychiatre de l'enfant et d'adolescent, parce qu'aussi c'est l'âge où apparaissent la majorité des troubles psychiatriques.
Alors la majorité, c'est toujours un peu compliqué. Disons que c'est pendant la période de l'adolescence que le pic d'apparition des pathologies, c'est-à-dire le moment où on apparaît le plus, est présent. C'est pas tout à fait comme si c'était la majorité des troubles dans leur totalité, mais c'est vrai que c'est un moment particulièrement fécond pour l'apparition des troubles. Et du coup, on sait que plus on les prend en charge précocement, plus leur évolution sera favorable. Donc c'est effectivement un moment extrêmement important. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais ce métier.
Mais qu'est-ce qui vous a dirigé vers la psychiatrie ?
Alors j'étais intéressé objectivement par le fait de comprendre comment les gens pensaient. Je suis très intéressé par... on voit bien dans notre propre cerveau que, comment on va réfléchir, comment je réponds à votre question, qu'est-ce qui se passe dans ma tête pendant que je suis en train d'y répondre. C'est intéressant en soi. Et puis j'avais un intérêt supplémentaire qui était comment je suis arrivé à penser. Et donc, comment je pense, c'est au fond de la psychiatrie adulte, et comment je suis arrivé à penser, c'est l'ajout de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, parce que le développement passe par là, et c'est quand même quelque chose d'assez fascinant, qui aujourd'hui d'ailleurs est très à la mode, parce qu'au fond, c'est le travail que font tous ces gens dans la Silicon Valley ou ailleurs, quand ils essayent de travailler sur l'intelligence artificielle.
Ils séquencent les pensées, de voir quel est le processus.
Tout à fait.
Mais ça vous faisait rien d'être docteur des fous ?
Alors moi, je préfère encore dire docteur des soucis. Vous savez, on dit soucis, tracas et choses qui embêtent.
Ouais.
Et donc, ça me semble plus proche de ce que je fais réellement. Et puis, au fond, des soucis, des tracas et des choses qui embêtent, ben, y a beaucoup d'enfants qui en ont. Et quand on peut les aider, c'est aussi un métier extrêmement gratifiant.
Le professeur Olivier Bonneau est notre invité aujourd'hui. Vous publiez « Et si c'était un TDAH ?» chez Marabout. Et on va s'intéresser aussi aux parents des TDAH ce matin.
AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec le professeur Olivier Bonneau qui est notre invité aujourd'hui. À noter que vous avez écrit, professeur, votre livre avec Laurence Olivier qui est orthophoniste au CHU de Nantes et que vous avez converti au TDAH.
Alors, Laurence s'intéressait un peu déjà au TDAH. Elle est orthophoniste, donc elle travaille avec les enfants qui ont des troubles du langage oral ou du langage écrit. Et puis, elle s'est intéressée aux troubles de l'attention qui parfois sont compliqués, de troubles type dyslexie ou dysgraphie ou autres, d'autres dys, on va dire. Et puis, c'est une professionnelle vraiment compétente, engagée, motivée, brillante. Et je lui ai proposé, quand je dirigeais le service à Nantes, de participer avec moi à des groupes de parents. C'est-à-dire, au fond, les groupes qu'on appelle de développement des compétences parentales dans le cadre du TDAH. Elle s'est prise tout de suite au jeu. Elle a travaillé, elle a regardé ce qui se faisait. Elle a ramené toutes sortes de petits conseils, de petits fascicules, de petites choses, en fait, pratiques, qui aidaient beaucoup les parents. Et on a animé ces groupes un temps ensemble. Puis après, j'étais débordé par d'autres fonctions. J'ai un peu arrêté de le faire moi-même. Et donc, naturellement, quand j'ai eu l'idée de faire un livre sur le TDAH, ben je me suis tourné vers elle en disant ben viens donc, il faut absolument que tu sois présent parce que je pense que c'est important de comprendre, c'est important d'avoir des explications, on va dire un peu médicales au sens très large que je peux amener, mais c'est important également d'avoir des aspects pratiques et d'éclairer un peu et de donner des tips un peu comme ça pour les gens. Et donc ça a été vraiment un travail très agréable à faire avec elle.
Et à noter que votre livre est à la fois un livre pratique pour les parents mais pour les enseignants également.
Alors en effet, c'est vrai que les enfants et les adolescents, ils passent beaucoup de temps à l'école. C'est sûrement une très bonne chose. Parfois, ils s'en plaignent, mais ils passent quand même pas mal de temps à l'école. Et l'école est quand même un lieu où on apprend à vivre en société et à se tenir, en quelque sorte. Et on apprend... il y avait un inspecteur de l'éducation nationale qui, un jour, m'avait dit « ils apprennent le métier d'élève ». C'est un métier, en quelque sorte. Et ce métier d'élève a quelque chose avec le métier de citoyen, le métier d'habitant du monde, enfin, de savoir un peu comment se comporter. Et évidemment, toutes ces contraintes sont toujours un peu plus dures pour les enfants TDAH. Notamment la contrainte de rester en place. L'idée de planifier, de s'organiser. À l'école, il faut faire son cartable, faire les choses dans un certain ordre et tout. Ils peuvent avoir de grandes difficultés de planification et autres. Et donc, du coup, c'est souvent à l'école qu'apparaissent les signes, enfin en tout cas de manière plus visible, et c'est souvent également l'école qui à la fois est bien ennuyée pour prendre en charge ce type d'élève qui a des difficultés comme ça, et c'est aussi l'école qui détecte et qui va aller voir les parents en disant là peut-être il faut aller voir quelqu'un, donc ça nous semblait important de nous adresser aussi aux enseignants.
Oui, des enfants qui sont vus souvent en classe comme des perturbateurs en fait.
Oui, c'est typiquement l'élève perturbateur. C'est même encore marqué dans certains documents officiels. C'est des élèves perturbateurs qui perturbent la classe, qui rendent les choses difficiles. C'est au fond ce qui est aussi très difficile quand on a un TDAH, et notamment quand il n'est pas reconnu, c'est que vous êtes toujours perçu comme étant quelqu'un, on l'a dit tout à l'heure, chiant, pénible, qui en fait perturbe la classe, mais perturbe aussi la vie de tout le monde. Ce qui fait que du coup, le retour que vous avez est souvent négatif. Et à force d'avoir tout le temps des retours négatifs, on finit par perdre confiance en soi, si tant est qu'on l'ait eu déjà, éventuellement se sentir triste, voire déprimé. Un enfant sur deux qui présente un TDAH a également une dépression, dont on sait quand même que la dépression, elle ne fait pas que rendre triste, parfois elle génère des idées suicidaires, et parfois ces idées suicidaires vont jusqu'à la tentative de suicide.
Et ça, c'est une des clés que vous donnez aux parents, valoriser vos enfants plutôt que de leur dire « arrêtez, t'es maladroit, t'es pénible ».
C'est toujours un peu le grand principe, c'est d'essayer de valoriser au maximum. Et un peu comme dans une interview comme ça, si vous me trouvez pas bon, c'est pas la peine de me dire que je suis pas bon, c'est mieux de me dire « ah ben là vous étiez très bon ». Et ça va m'encourager, dans ce que j'ai réussi à faire de convenable, à pouvoir regagner un peu confiance en moi et y aller un peu mieux, d'expliquer les choses mieux. Et c'est toujours comme ça avec les enfants, il faut plutôt voir ce qui a été bien fait, encourager, féliciter, remarquer ce qui a été mal fait, malgré tout. hein, mais sans insister lourdement dessus. Et ça, c'est vraiment un message clé, cette espèce de valorisation, peut-être même, je dirais, d'hypervalorisation chez ces enfants qui ont souvent une estime d'eux-mêmes, à force de tout ce qu'ils ont entendu, qui est très abaissée et qu'il faut donc un peu essayer de remonter, de regonfler.
Voilà, ce qu'a veut dire pour les parents, identifiez les qualités de vos enfants et justement, servez-vous-en.
Alors oui, c'est presque des conseils généraux, d'une certaine manière. C'est vrai que si on veut aider ces enfants, c'est toujours mieux d'essayer de voir quelles sont les qualités qu'ils ont, parce qu'ils en ont, parce que tout le monde en a, et d'essayer de les valoriser, d'essayer d'en faire le plus possible, et puis d'essayer d'atténuer l'impact des défauts, entre guillemets. Et au fond, c'est ça le travail de grandir. Grandir, c'est savoir ce qu'on est, se connaître, et essayer de s'appuyer sur ce qu'on sait bien faire et d'atténuer l'impact de ce qu'on ne sait pas bien faire.
Alors, comment est-ce qu'on reconnaît un TDAH ?
Alors, c'est vrai que c'est un diagnostic clinique. Vous aviez commencé à l'évoquer tout à l'heure. En psychiatrie, on n'a pas d'examen complémentaire pour faire les diagnostics. Alors ça étonne toujours un peu. En général, on se dit, bon, ben voilà, si je suis diabétique, le médecin le suspecte fortement, il va m'envoyer faire une prise de sang, je reviens avec ma prise de sang, il dit, écoutez, c'est confirmé.
C'est validé, ouais.
C'est validé, il n'y a pas de souci. Chez nous, nous n'avons absolument rien de ce genre. Il n'y a pas d'imagerie cérébrale, d'IRM ou de scanner qui va nous permettre de faire du diagnostic, pas de prise de sang qui va nous permettre de faire le diagnostic.
C'est-à-dire qu'à l'image, il n'y a aucune zone du cerveau qu'on pourrait voir.
Alors bien sûr, bonne question là encore. Il y a des zones du cerveau qui peuvent être altérées et qu'on pourrait voir, pas forcément en imagerie fixe, mais dans ce qu'on appelle l'imagerie fonctionnelle, qui permet de voir comment les zones du cerveau s'activent ou se désactivent. Mais simplement, il se trouve qu'aucune de ces images n'est retrouvée chez tous les enfants. Donc, c'est pas d'une grande aide pour le diagnostic final. À la fin du fin, la seule façon de faire le diagnostic, c'est de faire ce qu'on appelle de la clinique, ce que font au fond les médecins. Ils observent les signes cliniques. Et en fonction de ces signes cliniques, ils posent des diagnostics. C'est ce qu'on a fait pendant, au fond, des millénaires, et des centaines d'années, en tout cas plus récemment, et qui a toujours bien fonctionné. Et en psychiatrie, les psychiatres, en général, sont de très bons cliniciens. Et donc, c'est assez facile de poser un diagnostic de TDAH, en réalité.
Alors, vous faites des interviews, hein, d'une certaine façon, des entretiens, trois entretiens.
Alors oui, en effet, on a décrit un peu comme
Vous l'avez modélisé ou pas, cette façon de poser le diagnostic ?
Alors, pour poser le diagnostic, l'idée c'est d'avoir des informations qui viennent à la fois de l'enfant lui-même, quand on lui pose des questions, de pouvoir l'observer, et puis d'avoir des informations des gens qui s'occupent de l'enfant, à savoir les parents, et même, comme il y passe beaucoup de temps, éventuellement les enseignants. Pour obtenir toutes ces informations, il y a plusieurs façons de faire. Moi, j'en ai une, et je me suis aperçu en l'écrivant, plusieurs de mes collègues m'ont dit « Ah ben moi, je ne fais pas toujours comme ça ». Ça me paraissait évident, moi, de faire en trois parties comme ça. Et en fait, j'ai des collègues qui peuvent faire différemment. Peu importe, l'idée, c'est de recueillir en tout cas l'essentiel de ces informations. Moi, j'aime bien avoir un temps avec les parents qui viennent expliquer ce qu'ils ont observé. Et l'enfant est présent, ce qui lui permet d'entendre ce que ses parents ont observé et veulent me transmettre. Ensuite, je vois l'enfant seul, parce qu'après tout, c'est pour lui qu'on est là. Et lui, il me raconte un peu comment il ressent les choses et ce que lui a observé. C'est parfois un peu différent, c'est même parfois souvent différent. Et puis ensuite, les parents reviennent, et l'enfant est toujours là. Et à ce moment-là, on fait une sorte de synthèse. Ce qui est toujours très important, c'est que moi, j'essaie de ne jamais voir les parents sans les enfants. Parce que ce que j'aime, c'est que les enfants puissent me parler en confiance. Et vous serez d'accord que c'est plus facile de parler en confiance avec quelqu'un dont on imagine qu'il n'a pas des moments un peu en aparté, où on parle de lui, mais qu'il ne soit pas présent et on ne sait pas ce qu'on y dit.
Alors quels sont les signes, on va dire, qui sont communs à tous les TDAH ?
Il y en a, disons, trois ou quatre principaux. Le tout premier, c'est la difficulté attentionnelle. La difficulté à donc maintenir son attention. Ça, il n'y a pas tellement besoin de le décrire, on voit bien de quoi il s'agit. Le deuxième, qui est très important, c'est la distractibilité. C'est effectivement le fait que, si je parle avec vous et qu'un stylo tombe, normalement, je suis suffisamment concentré pour pouvoir rester et vous regarder. Mais si j'ai un TDAH, ce stylo va m'attirer immédiatement. Et vous imaginez bien, en fait, que dans une salle ou n'importe où, il y a toujours quelque chose qui peut vous attirer, une horloge, n'importe quoi. Le troisième signe, qui est quand même très important, c'est l'impulsivité. L'impulsivité, c'est... il y avait un vieux sketch des Inconnus comme ça, où il y avait un buzzer et il répondait avant que la question soit posée. C'est ça. C'est-à-dire, c'est vraiment, je réponds trop vite, je suis trop rapide. Et ça, c'est un vrai problème à l'école, parce que si vous ne lisez pas entièrement l'énoncé, eh bien, finalement, vous faites une erreur de réponse. Mais c'est pas parce que vous êtes mauvais, c'est parce que vous avez pas bien lu. Donc par exemple, ça aboutit à un conseil simple qui est de dire, mais vérifiez avec l'enfant qu'il a bien lu l'énoncé. Ensuite, on pourra bien juger s'il est capable ou pas de répondre. Mais au moins, il part pas avec ce handicap de départ. Et puis il y a, de manière alors moins classique dans les classifications, mais quand même important, ce qu'on appelle la dysrégulation émotionnelle, c'est-à-dire au fond ce côté je suis envahi par mes émotions et j'arrive pas bien.
C'est plus récent aujourd'hui. Voilà, de parler des émotions.
En psychiatrie des évolutions, parfois des effets de mode. C'est probablement l'un comme l'autre. Et aujourd'hui, on attache beaucoup d'importance à cet aspect de régulation émotionnelle qui n'est pas spécifique du TDAH. À vrai dire, la distractibilité non plus.
Des signes qu'on partage avec beaucoup d'autres
Alors, on les partage avec beaucoup de troubles. Et surtout, on va les retrouver chez plein de gens qui n'ont pas de TDAH. Ce qui fait qu'on a un trouble en psychiatrie en général et pour le TDAH en particulier, c'est qu'il y a un impact. C'est qu'il y a un retentissement dans votre vie de tous les jours. Si vous arrivez à très bien vivre, moi je dis parfois, je ne vais pas chercher des gens dans la rue avec un lasso pour leur dire « soigne-toi ». C'est des gens qui viennent et qui disent « écoutez, moi, comme je fonctionne, ne me permet pas de fonctionner dans la vie de tous les jours. Donc aidez-moi en atténuant les signes de façon à ce que je puisse fonctionner dans la vie de tous les jours, en l'occurrence à l'école, avec mes petits camarades pour les enfants et pour les adultes dans leur travail, parce que les adultes TDAH, ça peut être compliqué aussi dans leur travail à certains moments, fusionnant d'idées, un peu désorganisé, de pouvoir essayer de s'organiser mieux, de trouver des trucs pour pouvoir s'organiser, être plus fonctionnel. C'est ça qui compte. C'est au fond, aujourd'hui il y a un mouvement important en psychiatrie adulte qu'on appelle le rétablissement. On pourrait dire qu'on est un peu dans ce registre-là. L'idée, c'est de construire avec la personne comment on peut faire pour aller bien dans l'environnement dans lequel on se trouve.
Et le professeur Olivier Bonneau, notre invité aujourd'hui, montrez votre livre à la caméra. Tiens, tenez, je vous en donne un.
Ah, vous êtes gentil.
Hein, vous me le rendrez tout à l'heure. C'est mon exemplaire
pour parler
du TDAH. Et si c'était un TDAH, et on en parle jusqu'à 13h.
AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, le professeur Olivier Bonneau est avec nous aujourd'hui, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université Paris-Saclay, qui publie « Et si c'était un TDAH, déficit de l'attention, hyperactivité, impulsivité, les outils pour faciliter le quotidien » aux éditions Marabout. On parlait de ces enfants TDAH. Ce sont souvent des enfants, alors je mets des guillemets, des enfants tyrans. Pourquoi est-ce qu'on pourrait les trouver tyranniques ?
En général, parce qu'ils ont, ils peuvent avoir comme ça, être un peu rigides et fixés sur des idées et des envies. Souvent également, ils ont un manque de confiance en eux, qui fait qu'ils ont besoin d'être rassurés beaucoup. Et parfois, quand on a besoin d'être rassuré, il faut reconnaître que c'est plutôt bien quand votre demande est immédiatement assouvie. Et donc, ça peut les rendre comme ça un peu difficiles à contrôler. Et puis, il y a cette hyperactivité motrice qui fait qu'ils bougent tout le temps. Ils ne peuvent pas s'en empêcher, en tout cas pour ceux qui ont une hyperactivité, ne peuvent pas s'en empêcher réellement. Et de fait, du coup, vous êtes toujours un peu en conflit avec eux. Et donc, ça rend ces enfants difficiles comme ça et un petit peu, pas faciles à manœuvrer.
Obtus, parfois.
C'est pas les plus tyrans, quand même. Ils n'ont pas tous. Alors, parfois, ils évoluent parce que le TDAH, bon, c'est un trouble du neurodéveloppement. Il a ses évolutions. On a évoqué un peu chez l'adulte, plus tardivement, parfois des évolutions dramatiques autour des addictions, parfois des évolutions positives, et parfois des évolutions qui se compliquent d'autres choses, et notamment de ce qu'on appelle le trouble oppositionnel avec provocation, qui a un côté un peu amusant parce que son nom, tout est dans le nom, quoi. Donc c'est un trouble où il y a l'opposition et la provocation. C'est ceux-là qui sont les plus tyrans, on va dire. Donc c'est quand même une forme un peu au-dessus du TDAH, enfin en plus. Le TDAH lui-même, il n'est pas nécessairement tyran, il est juste un peu épuisant, il est fatigant. C'est vraiment ce que disent les parents, c'est « il m'épuise ». Et chez l'adulte, d'ailleurs, ce qui reste, c'est également ça. Les conjoints de gens qui sont avec des adultes TDAH disent « il est fatigant ». Et d'ailleurs, parfois, pire que tout, les gens qui ont eux-mêmes un TDAH disent « je suis fatigué de moi-même ». Ce qui est au fond le pire.
Je me fatigue.
Je me fatigue moi-même.
Je me fatigue moi-même. Ça, vous prenez un exemple. Si vous faites une promesse, tenez-la. Sinon, vous êtes mort dans l'œuf. Si vous dites à votre enfant, on va aller au McDo aujourd'hui, c'est pas la peine de changer d'avis. Hein.
Alors, en général, effectivement, tenir sa parole est un facteur de réassurance. Alors, on a dit tout à l'heure que 50% des enfants qui avaient un TDAH avaient également des troubles dépressifs. 50% d'entre eux ont également des troubles anxieux. Il y a quand même un moment donné où il faut essayer de rassurer un peu. Et pour rassurer, il faut donner un cadre. Et pour donner un cadre, ce qui est sûr, c'est que c'est bien de tenir sa parole. Alors évidemment, quand on tient sa parole, ça signifie que quand on dit qu'on va faire quelque chose, il faut quand même être à peu près sûr d'être en mesure de le faire. Et si vous dites à un enfant, par exemple, écoute, il faut absolument qu'on range ta chambre ce matin avant d'aller à l'école, c'est perdu d'avance. Vous allez à un moment donné devoir retirer votre promesse, vous ne pourrez pas l'accompagner, ça va être trop, le temps va être... Par contre, si vous dites, on est vendredi soir, ce sera fait avant dimanche, ça vous donne un peu de marge. Mmh. Donc, ça nécessite aussi de réfléchir à ce qu'on dit. Mais effectivement, une fois qu'on a dit et qu'on a proposé, vous preniez l'exemple d'aller dans un restaurant de restauration rapide, pour ne pas donner de nom.
Je
l'ai entendu.
Oui,
mais il n'en reste pas moins que si vous dites ça, alors il va falloir le faire. Et vous pouvez pas à un moment donné dire, ah ben non, on avait dit, mais maintenant il pleut, c'est pas la bonne journée, ben on n'ira pas aujourd'hui. Non, avec ces enfants-là, il vaut mieux quand même tenir sa parole.
J'ai cité McDo parce que c'était dans votre livre, mais je peux citer KFC aussi. Après, aller au-delà, j'aurais du mal.
Oui.
Mais ça
peut pas. Il y en a quelques. Enfin, remarquez, oui. Ah, si. Non, je ne sais même pas quelles sont les autres marques. Mm. Ah, si. Ben, Burger King, quand même.
Voilà, on en a trois.
Maintenant, on est équilibré.
C'est un trouble genré, en fait. Finalement, l'expression du TDAH n'est pas la même chez les garçons que chez les filles.
Alors, effectivement, c'est genré à plusieurs niveaux. Pendant assez longtemps, on a pensé qu'il y avait plus de garçons que de filles, on le pense toujours d'ailleurs, qui avaient un TDAH, comme pour beaucoup de troubles du neurodéveloppement. Puis progressivement, je dois dire aussi beaucoup parce qu'un certain nombre de femmes ont fait psychiatrie et sont un petit peu intéressées à ces troubles, on a remarqué que l'expression du trouble étant différente chez la fille, moins hyperactive on va dire, et un petit peu plus trouble de l'attention, en fin de compte, on passait à côté. Et que donc, ce dont on avait l'impression au départ qui était il y a un sexe ratio beaucoup plus en faveur du garçon, finalement tend à s'équilibrer. Et alors en plus, on est passé à côté avec pour des stéréotypes de genre, c'est là aussi où il y a un autre aspect genré, dans l'idée au fond c'est une fille, elle est un peu cervelée, elle est un peu dans la lune, c'est normal, entre guillemets. Alors, il ne faudrait pas qu'on coupe juste cette partie, ce serait terrible pour moi, mais vous voyez, dire c'est normal comme ça, ça se disait assez facilement. Et c'est vrai que aujourd'hui, on a bien l'impression que si on regarde mieux, on a beaucoup plus de filles TDAH qu'on ne le pensait avant. Alors, je ne sais pas si on est à 50-50, mais en tout cas, on va avoir des ratios qui sont plus de 1 sur 3, comme on le disait avant.
Oui, mais on pense aussi que c'est une maladie de civilisation, alors que quand on lit votre livre, pas du tout.
Non, en effet, c'est vrai qu'on a souvent... parmi les gens qui sont très détracteurs, il en existe de ce trouble. Et encore une fois, en science, en psychiatrie, comme dans le reste de la médecine, on peut toujours discuter de toutes les hypothèses. Mais enfin, parmi les gens qui sont assez détracteurs, il y a toujours l'idée, c'est parce que aujourd'hui, on s'occupe moins bien des enfants, la société est terriblement compliquée, et donc on a plus de TDAH. En fait, pas du tout, ça existe depuis longtemps, ça a été décrit depuis l'Antiquité. En tout cas, depuis 200 ans, on en parle beaucoup, beaucoup. Il y a des petits livres, des petites bandes dessinées qui ont été faites dessus, des personnages un peu célèbres qui le sont. Enfin bref, on en a vraiment parlé. C'est pas du tout une invention récente. Et puis moi, j'ai tendance à dire, aujourd'hui, on nous dit, oui, le monde, il est très compliqué, la guerre en Ukraine. Bon, j'imagine que pendant la guerre froide, ça devait pas être très facile. Est plutôt inquiétant comme monde, quand on regarde bien. Et ça, c'est pour revenir à des périodes récentes. Si on va 200 ou 300 ans en arrière, j'ai l'impression que la vie n'était pas non plus extrêmement facile. Donc ça a toujours été un peu compliqué. Je ne crois pas qu'on puisse toujours trouver dans l'environnement et dans l'angoisse du monde qu'on est en train de vivre, et qui est réelle, une explication à l'éclosion supposée de tel ou tel trouble.
Vous parliez tout à l'heure de dysrégulation émotionnelle. Ça va peut-être parler à beaucoup de parents qui nous écoutent. Ce sont des enfants qui font là aussi, on met des guillemets, des crises, qui piquent des crises pour un rien.
Alors, ça peut effectivement arriver. La crise, en règle générale, c'est le motif de consultation principal en psychiatrie. Vous voyez, on a psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. On a parfois une représentation de ce que l'on fait qui est assez improbable, en tout cas qui ne correspond pas totalement à la réalité. Et donc, on vient nous voir parce que les gens font des crises. La crise, c'est un comportement inadapté. Alors évidemment, la crise la plus connue, c'est celle de l'enfant qui fait une colère, qui est une crise bien particulière, parce que on ne lui donne pas à la caisse du supermarché qu'il réclame et qui se trouve fort opportunément devant lui au moment de passer à la caisse. Et puis, c'est des enfants à qui on va demander quelque chose et qui vont refuser de le faire et qui vont, un peu comme le petit Abdallah dans Tintin, dire « je m'arrête de respirer, et je tape par terre et puis je vais obtenir ce que je veux ». Ça, c'est la dimension très opposition. La dimension de la dysrégulation émotionnelle, elle est plus au fond de ces enfants qui vont se retrouver envahis par des émotions dans des moments qui peuvent parfois être même joyeux. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui va avoir tous ses camarades à son anniversaire, un moment qui devrait bien se passer, mais en fait submergé par les émotions agréables d'être avec ses camarades, mais aussi d'être attentif à ce que tout se passe bien et autres, il va plus être capable de le gérer. Ça va le rendre très anxieux, et en fait la crise est souvent un moment de grande anxiété, et donc il va se présenter comme ça, avec des agitations, ou, vous savez, des portes qui claquent, l'enfant qui part en pleurant, en disant « non, je veux que tout le monde s'en aille », et tout d'un coup les choses deviennent complexes. Je pense que l'idée c'est toujours d'essayer de rassurer, d'avoir un contexte, une planification des événements qui ne soit pas si surprenante. Si on sait un peu où on va, comment les choses vont se passer, si on est dans un environnement qui est bienveillant, rassurant, qui est également prévisible, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure sur le fait de tenir ses promesses, on doit pouvoir atténuer un certain nombre de choses.
Le TDAH aime les routines.
Il déteste pas les routines, en tout cas il en a besoin.
Ça c'est important pour les parents. Vous revenez dans votre livre sur la prise en charge médicamenteuse du TDAH, qui a fait l'objet de polémiques, souvent.
Alors, les médicaments chez les enfants et les adolescents font l'objet de polémiques un peu tout le temps.
Le psychiatre peut en prescrire.
Alors, le psychiatre, effectivement, peut en prescrire. Il se trouve que, par ailleurs, sur les symptômes, et notamment le déficit attentionnel, les médicaments dont on dispose sont très efficaces. Ils ont des efficacités qui sont considérées presque parmi les médicaments en médecine, toutes disciplines confondues, les plus efficaces. Donc ça marche vraiment bien pour se concentrer. C'est du coup peut-être aussi ça qui fait un peu la polémique, c'est que ça marche tellement bien qu'on aurait tendance à se dire « oh là là, mais il faut peut-être le prescrire ».
Alors ils appartiennent à quelle classe ?
Alors ils appartiennent à une classe qui s'appelle les stimulants du système nerveux central. Et la polémique vient souvent du fait qu'ils fonctionnent comme des amphétamines, mais ils ne sont pas des amphétamines. Et ils n'en sont même pas des dérivés d'amphétamines. Alors c'est un peu compliqué comme idée, mais enfin c'est un peu comme si on imite entièrement quelque chose, mais qu'on n'a rien à voir, qu'on a été fabriqué complètement différemment. Et c'est des médicaments qui fonctionnent bien, qui en général sont quand même plutôt bien tolérés, et surtout qui aident énormément les enfants. C'est parmi les rares médicaments que je donne, quand je pense qu'il y a une indication et quand vraiment le retentissement est important, ou sans rien dire, notamment aux enseignants, les parents, après quelques jours de traitement, se retrouvent avec une maîtresse qui, plutôt que de les convoquer pour dire pour une nouvelle litanie de difficultés avec leur enfant, vient de dire « je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis 3 jours, votre enfant est exceptionnellement plus concentré. Que se passe-t-il ?»
Mais qu'est-ce qui se passe quand on arrête les médicaments ?
Alors, il y a 2 possibilités, en réalité. La première possibilité, puisqu'on a évoqué l'aspect développemental de l'attention, c'est que finalement, le fait d'être soutenu dans son attention par le médicament permet à votre attention de continuer à se développer, ou en tout cas d'aider à se développer, de fait qu'à un moment donné, un peu comme une béquille que vous prenez, votre attention, c'est pas non plus réparée, mais enfin, est un peu mieux, et que du coup, vous en avez plus besoin. Ça arrive. L'autre, et probablement peut-être parce qu'il y a plusieurs types de TDAH, l'autre cas, c'est des gens qui effectivement vont en avoir besoin pendant un certain temps. Un certain temps qui peut être plusieurs années, disons-le clairement. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher toujours la plus petite dose efficace, d'accord, pour attendre, voir, tant que les gens en ont besoin, avec des périodes d'arrêt, pour vérifier que quand on arrête, soit les gens vont bien et à ce moment-là, on est dans le cas numéro 1, soit il faut reprendre et on est dans le cas numéro 2 et on recontinuera.
Et si c'était un TDAH, le professeur Olivier Bonneau, notre invité ce matin, vous réécouterez l'émission en podcast sur BFM.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Beaucoup de nouvelles pistes dans votre livre que vous avez créé et coécrit avec Laurence Olivier. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup, en tout cas, de cette invitation.
Avec beaucoup de plaisir et passez une très belle journée. Santé sur BFM.
Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.